France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Tom Umdenstock, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Alors qu'en France, un homme, El Hassen Diarra, est mort en garde à vue dans un commissariat du 20e arrondissement de Paris après une arrestation violente. Alors qu'en France, toujours, la présomption de légitime défense pour un policier qui aurait utilisé son arme à feu a finalement été rejetée par l'Assemblée nationale la semaine dernière, mais que cette idée d'inversion de la charge de la preuve fait son chemin. Nous consacrons cette nouvelle série de Culture Monde aux violences policières utilisées comme arme politique. C'est le cas dans l'état de Rio au Brésil, nous en parlerons demain, de la police sud-africaine contre les travailleurs des mines, il en sera question mercredi, des répressions classées sans suite au Sénégal que nous évoquerons jeudi. Aujourd'hui, comment ne pas parler de l'ICE, cette police qui aux États-Unis attaque et les étrangers et l'état de droit.
Ayant vu la vidéo de mes yeux, je veux le dire à tout le monde. Il s'agit d'un agent qui a utilisé la force de manière inconsidérée et il en a résulté que quelqu'un est mort, a été tué.
Ils ont abattu quelqu'un là-bas. Il y avait 5 ou 6 mecs qu'ils tenaient à terre. L'un d'entre eux a ouvert le feu, il s'est reculé et a tiré de nouveau 5 fois sur cet homme au sol alors qu'il était allongé dans son sang.
Président Trump, il est temps de se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération et la sécurité sera rétablie. Nous vous demandons d'agir maintenant pour retirer ces agents fédéraux.
Quand le journaliste américain Norman Mailer écrivait dans les années 90 qu'un flic essaie de résoudre sa violence en l'enveloppant d'un uniforme, il savait déjà que la police avait prêté main forte aux foules ségrégationnistes dans les États du Sud. Il ne connaissait pas encore l'ICE, la police de l'immigration et des douanes. Les images, on les a vues, ces hommes qu'on croirait toujours les mêmes tant ils paraissent identiques sous leur cagoule ou masque à gaz, certains supportant la honte de leur fusil d'assaut, d'autres qui n'hésitent pas à en faire usage, rien ne leur paraît plus naturel que tenir leur arme et de faire feu avec, comme s'ils avaient soudain un nouveau membre qu'ils n'avaient pas à la naissance. Après que l'ICE eut tiré 3 balles sur René Good, qui venait de dire à celui qui la visait « Tout roule mec, je t'en veux pas », des agents, cette fois de la police des frontières, ont vidé leur chargeur ce week-end sur un homme allongé au sol, Alex Pretty. Et quand Jacob Frey demande aux agents de l'ICE de rentrer chez eux et que cet accès de barbarie prenne fin, Donald Trump répond que c'est lui, le maire de Minneapolis, qui pousse à l'insurrection. La question qu'on pose ce matin dans Culture Monde est celle de l'objectif politique d'une telle police, au-delà de ses fonctions de maintien de l'ordre et de la loi. Pourquoi est-elle déployée, surtout dans les bastions démocrates, a-t-elle carte blanche, qui la surveille, qui est censé modérer ses interventions? Nous devions être en ligne avec Cléa Fortuné, maîtresse de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et qui vient de réapparaître. Bonjour Cléa Fortuné.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes depuis la radio-télévision suisse à Genève. Je vous en remercie. Bonjour Ludivine Gilly.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des États-Unis et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Alors, Alex Pretty hier, l'actualité nous rattrape évidemment. Alex Pretty hier, René Good le 7 janvier, quand l'ICE ou la police des frontières tue, est-ce qu'une autorité qui lui est supérieure ouvre une enquête type IGPN en France, Ludivine Gilly?
En théorie, oui. Et d'ailleurs, à la suite du meurtre de René Good, c'est ce qui avait été fait. Le FBI avait ouvert une enquête qui a été refermée.
Tout de suite.
Qui a été refermée dans les jours qui ont suivi, à minima, sur instruction de l'administration Trump. Est-ce que c'est Kristi Noem, la ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est Donald Trump lui-même? On ne sait pas. Dans la foulée, les autorités locales ont ouvert une enquête. Et on voit se jouer actuellement à Minneapolis la lutte entre l'État fédéral et les États fédérés. Parfois, au cours des années 60 notamment, c'était l'État fédéral qui allait expliquer aux États fédérés qu'il fallait respecter l'État de droit. Et aujourd'hui, à Minneapolis, il semblerait qu'on voit l'inverse.
Et notamment, la justice fédérale aussi s'en mêle, puisque des procureurs ont démissionné quand on leur a demandé d'ouvrir une enquête contre la veuve de René Good. Je ne sais pas qui leur avait demandé d'ailleurs d'ouvrir cette enquête, si on a des informations là-dessus, mais eux ont démissionné. Le procureur de l'État aussi du Minnesota, Case Ellison, qui est actif aussi, il a encouragé le dépôt de plainte contre l'État fédéral. Donc là, les États fédérés, pardon, sont aussi mobilisent leur justice. On est dans deux cas, j'allais dire différents, en fait, pas du tout différents. La conclusion est la même. René Good, Alex Preti, deux personnes qui filmaient l'ICE en train d'agir dans une mission qu'ils s'étaient donnée de veille citoyenne. Deux personnes qui n'avaient aucun casier judiciaire, qui a priori ne portaient pas d'armes. Pour René Good, c'est sûr. Pour Alex Preti, le ministère de la Justice soutient le contraire, d'autant que l'homme disposait d'un permis de port d'armes. Mais le New York Times ou encore Bellingcat affirme, après analyse des images, qu'il sortait juste son téléphone portable pour filmer l'ICE.
Il n'avait pas d'arme à la main, mais il avait une arme sur lui, a priori.
Et là, c'est son téléphone qui l'a sorti. Voilà. J'allais dire que c'est l'ICE qui l'a plaqué ensuite au sol, mais en fait, c'est la police des frontières, et ce sont deux choses. Est-ce que c'est vraiment si différent que ça, Ludivine Gili, l'ICE et ces agents-là qui ont tué Alex Preti?
Techniquement, oui. En pratique, aujourd'hui, non. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de ICE. Concernant le meurtre d'Alex Preti, en fait, a priori, ce meurtre a été commis par des agents de la police des frontières, CBP, Customs and Border Patrol. ICE et CBP sont deux agences qui dépendent toutes les deux du ministère de l'Intérieur.
Mais surtout, qu'est-ce que la police des frontières fait à Minneapolis?
Et c'est un fait intéressant. La police des frontières a des effectifs beaucoup plus nombreux que ICE. Ils sont à peu près 45 000 aux États-Unis. ICE, les effectifs ont augmenté. C'était autour de 20 000 ces dernières années. Ce serait autour de 22 000 aujourd'hui, avec une cible à 30 000. Mais surtout, effectivement, normalement, la police des frontières exerce ses fonctions aux frontières avec une latitude reconnue par la Cour suprême jusqu'à une centaine de miles à vol d'oiseau des frontières. Et donc, si on regarde frontières mexicaines d'un côté, les frontières maritimes à l'est, à l'ouest et au nord, la frontière avec le Canada, beaucoup du territoire, une bonne partie du territoire des États-Unis se trouve dans cette zone dans laquelle la police des frontières peut effectivement exercer.
Ils ont tué un type un peu plus loin. Il était plaqué au sol et ils l'ont juste exécuté.
C'est notre quartier. Qu'est-ce que vous faites là? C'était tranquille ici avant. Pourquoi vous faites ça?
Si tu vois mon visage, pourquoi je ne vois pas le tien?
Hey,
mon visage est ici, regarde. Je peux voir le tien?
Des manifestations à Minneapolis, manifestations par ailleurs très costaudes et réprimées par les agents fédéraux. Ce sont des témoignages recueillis ou des ambiances sonores recueillies par Olivier Poujade ce week-end pour Radio France. Alors il y a eu le meurtre d'Alex Preti ce week-end, celui de René Good en janvier, mais tellement d'autres violences qui sont peut-être un petit peu moins mises en lumière, mais qu'on connaît par toutes les vidéos qui circulent. Une femme arrachée à son bébé par un agent, des produits chimiques utilisés dans les visages des manifestants, un vieil homme arrêté chez lui et traîné dehors où il faisait un froid glacial, un pasteur blanc qui s'interpose et qui s'entend dire que ce serait plus amusant de vous liquider si vous étiez noir, des enfants arrêtés, ce petit garçon hispanique de 5 ans arrêté il y a quelques jours avec son père et son petit cartable sur le dos. Cléa Fortuné, les violences se font jusqu'au centre de détention où sont conduites ces personnes quand elles sont arrêtées, des personnes y meurent d'ailleurs régulièrement. Qui fait le travail de veille dans ces centres de recensement des violences, voire des décès?
Alors justement, c'est toute une question, puisque ces violences dans les centres de détention, elles sont très bien documentées par les chercheurs depuis longtemps. Vous avez mentionné des décès dans ces centres de détention. En effet, en 2025, on en dénombrait 30. 30 personnes étaient décédées dans les centres de détention, dont les conditions sont insalubres, il fait très froid, les personnes qui sont dans ces centres n'ont presque pas à manger. C'est des centres qui sont aussi surpeuplés, hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 65 000 personnes qui sont en centre de détention, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Et donc, il y a aussi un manque d'assistance médicale, mais rien n'est fait jusque-là. C'est des conditions qui sont connues, mais les services au sein du département de la sécurité intérieure, qui normalement sont en charge de contrôler ce qui se passe dans les centres de détention, mais aussi la violence de ICE ont été démantelés. Hein. Les personnes ont été licenciées suite au licenciement de plusieurs personnes par le département du DOJ. Et donc, des violences ont encore cours aujourd'hui dans ces centres. Il faut aussi savoir que ces centres de détention sont gérés par des compagnies privées comme Corps Civic et GEO Group, qui passent des contrats avec l'agence fédérale de l'ICE. Ce sont des centres qui sont qui ont vu leur profit énormément augmenter, puisque plus il y a de personnes dans les centres de détention, plus les centres font des profits.
Alors le DOJ, vous parlez du DOJ qui a fait faire à l'État fédéral des économies tous azimuts sur les fonctionnaires. En revanche, les agents fédéraux de l'ICE, eux, sont très nombreux sur le territoire, déployés massivement. 3000 à Minneapolis contre 600 policiers locaux dans la seule ville donc de Minneapolis depuis l'opération dite Metro Surge qui a été lancée début décembre par Donald Trump dans la ville démocrate en prétextant un scandale de fraude aux aides sociales dans lequel sont impliqués quelques 80 Somaliens sur une communauté qui en compte plusieurs milliers et dont la grande majorité a du reste la nationalité américaine. C'est vrai qu'ils donnent ces agents de l'ICE, l'impression d'être sortis de nulle part, au sens propre comme figuré. Or, c'est une police qui existe depuis 2003, Cléa Fortuné. Quelle était précisément sa mission en 2003, donc dans le contexte de l'après 11 septembre 2001 et sous George W. Bush?
Oui, en effet, l'agence, elle n'est pas nouvelle. Hein. Comme vous l'avez dit, elle a été créée en 2003 suite aux attentats terroristes du 11 septembre. Et en fait, sa mission principale était de protéger le territoire national, d'assurer la sécurité avec des missions autour du contrôle des frontières, des douanes et de l'immigration notamment. Après, ces missions ont quand même évolué sous l'administration Trump depuis 2025. Ludivine Gili l'a rappelé, hein, il y a une augmentation du nombre d'agents qui sont recrutés. Le budget est aussi sans précédent pour cette agence. Une loi qui s'appelle la One Big Beautiful Bill Act a été signée en juillet 2025. Elle alloue plus de 70 milliards de dollars pour cette agence, pour conduire en fait ce projet d'expulsion de masse qui est une priorité pour l'administration Trump. Il a annoncé vouloir expulser plus d'un million de personnes par an, donc ce qui reviendrait à peu près à 4 millions de personnes en situation irrégulière sur son mandat. Et grâce à ce budget qui a été consacré à l'ICE, c'est les possibilités d'expulser les personnes avec des partenariats qui sont passés avec les juridictions locales, notamment dans les villes républicaines, pour que la police locale coopère avec les agents fédéraux, ou encore les arrestations qui peuvent avoir lieu dans des zones qu'on dit sensibles, comme les églises, les écoles, les hôpitaux, sont maintenant autorisées, ce qui n'était pas le cas avant.
C'est vrai que l'ICE essaye de convaincre les policiers locaux de coopérer avec des campagnes de communication qui leur sont dédiées dans les villes sanctuaires, notamment celles qui refusent d'appliquer la politique de Donald Trump. Vous avez juré de protéger et servir, dit par exemple une de ces campagnes, mais dans les villes sanctuaires, on vous ordonne de reculer pendant que des illégaux dangereux avancent libres et de très nombreux moyens ont été mis aussi sur les campagnes de recrutement.
Vous avez fait le serment de protéger et de servir, de garantir la sécurité de votre famille, de votre ville. Rejoignez ICE et aidez-nous à attraper le pire du pire. Trafiquants de drogue, membres de gangs, prédateurs, rejoignez la mission pour protéger l'Amérique, avec des bonus de 50 000 dollars et des avantages généreux.
Campagne de recrutement baptisée Wartime Recruitment, recrutement de guerre diffusée depuis le mois d'avril dernier sur Amazon, sur YouTube, sur Spotify qui a finalement annoncé qu'elle arrêterait de diffuser ce message après avoir soutenu pendant des semaines qu'il ne posait pas de problème, ne violait pas ses règles en matière de publicité. À qui ces campagnes sont-elles destinées en particulier, Ludivine Gili? Qui s'agit-il de convaincre?
Il s'agit de recruter pour remplir les postes très nombreux qui ont été ouverts. Et ce qu'on peut noter, c'est que alors l'administration Trump donne beaucoup de chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. C'est toujours bien de faire preuve de prudence lorsque les autorités donnent des chiffres, mais par le passé, on avait quand même tendance à croire les chiffres officiels. Aujourd'hui, la position par défaut vis-à-vis des chiffres, en particulier fournis par le ministère de l'Intérieur aux États-Unis, c'est de douter de ces chiffres. Concernant les recrutements, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir reçu, après sa première, son premier grand appel, 150 000 candidatures. Alors en fait, ce ne sont pas 150 000 personnes qui ont candidaté, ce sont 150 000 candidatures pour des postes différents, la même personne répondant parfois à plusieurs
annonces
qui ont répondu. Et pour ICE, il s'agit de remplir des postes. Et cela est parfois, même assez fréquemment fait, semble-t-il, dernièrement, sans les vérifications qui étaient effectuées auparavant.
Vérifications d'usage de type quoi, casier judiciaire ?
Antécédents, par exemple. Ils se sont retrouvés avec des indics, par exemple, accueillis en centre de formation, qui donc ensuite ont été renvoyés chez eux, ou des personnes avec casier judiciaire qui ensuite ont été renvoyées chez elles. Et on a également une baisse du niveau, que ce soit académique ou physique, des personnes qui se présentent. On ne fait pas le tri. On recrute ces personnes. Il y a une journaliste qui s'était inscrite pour voir comment le processus se déroulait et qui s'est retrouvée inscrite sans l'avoir vraiment souhaité. On voit des taux d'échec au sein du centre de formation FLETSI, le centre fédéral pour les agents des forces de l'ordre, qui sont beaucoup plus importants qu'auparavant, parce qu'auparavant, les vérifications avaient lieu avant. Et là, les personnes arrivent, échouent et sont renvoyées chez elles. Donc on a vraiment une baisse de la qualité des recrues. Et on a également une baisse de la formation. Ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas encore arrivées sur le terrain. Certaines, oui. Ça pose la question de personnes non préparées, non formées, qui vont être mises dans des situations très délicates. Auparavant, la formation, c'était 3 mois, 6 mois dans certains cas, selon l'expérience de la personne en question. Aujourd'hui, c'est 47 jours. Pourquoi 47 jours ? Parce que Donald Trump est le 47e président des États-Unis.
Donc il a décidé que ce serait 47.
Il a été décidé que ce serait 47.
Dans Libération, hier, l'historienne des États-Unis Sylvie Laurent signait une tribune en disant que l'imagerie du ministère de la Sécurité intérieure aux États-Unis aujourd'hui emprunte à l'esthétique fasciste et aux références des milieux néo-nazis sans aucun doute possible, ce sont ses mots, comme du temps de la lutte pour les droits civiques où la police du Sud prêtait main forte aux foules ségrégationnistes, la police de l'immigration agit en symbiose avec les activistes de l'extrême droite suprémaciste. Ce sont ces mots, Cléa Fortuné. Est-ce que la violence d'ICE est aujourd'hui un argument de recrutement ?
Alors, c'est vrai que voilà, de par le biais de recrutement, hein, cette volonté d'aller chercher plutôt des jeunes issus du mouvement MAGA qui sont alignés avec les politiques anti-migratoires de Trump, ça mobilise des forces qui ne vont pas en effet hésiter à utiliser la violence.
Une des règles jusqu'à présent qui prévalait dans ces polices fédérales, c'est que l'usage d'armes mortelles est interdit pour empêcher la fuite de quelqu'un. Les agents peuvent y avoir recours s'ils ont, je cite, un doute raisonnable sur le fait que l'individu représente un danger imminent pouvant conduire à blesser ou tuer l'officier ou une autre personne. On peut débattre sur le flou, par ailleurs, de cette définition qui a laissé penser à certains agents qu'ils étaient autorisés à tirer, notamment sur René Goude, alors qu'elle était en train de quitter les lieux. Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on applique les règles, à moins que cette règle-là ait littéralement sauté, Cléa Fortuné? Qu'est-ce que vous avez vu dans les méthodes de l'ICE changer au cours de ces dernières années?
En effet, ce recours à la violence qui est fortement accru. Alors c'est pas nouveau qu'un agent de l'ICE tire sur quelqu'un, mais en fait, ce qui a surtout changé, c'est la façon dont l'État fédéral se positionne vis-à-vis de ces meurtres. Comme vous l'avez rappelé, c'est une combinaison un peu de ce qu'on trouve dans la Constitution et aussi dans les directives du Département de la Sécurité intérieure, qui en effet autorise l'utilisation de la force qui peut mener à la mort si une personne pose un danger ou s'il y a une raison valable ou raisonnable en tout cas, qui est un danger imminent à l'encontre d'un agent fédéral. Dans ces cas-là, ils sont autorisés à tirer. Et comme pour le cas de René Goude et d'Alex Preti, le gouvernement fédéral en fait défend ses agents, ça aurait été de la légitime défense selon eux, il les qualifie de patriotes et qualifie au contraire les opposants aux agents de ICE il les qualifie de terroristes. Et ça, c'est quelque chose qui a fortement changé par rapport aux administrations précédentes, la façon dont ils défendent en fait l'utilisation de la force qui mène à la mort des agents de ICE.
Il y avait une femme qui criait « honte, honte, honte ». C'était une agitatrice. Probablement une agitatrice payée, mais à mon avis, c'était une agitatrice. Une agitatrice de haut niveau, tellement professionnelle, elle n'arrêtait pas de crier. J'ai dit « ce n'est pas une situation normale, c'est une fauteuse de troubles professionnelle ».
Donald Trump parlant de René Goude, qu'il qualifiera plus tard par ailleurs de terroriste, elle comme sa veuve, elle comme également une autre citoyenne américaine de 30 ans, Marimar Martinez, des agents des gardes frontières lui ont tiré dessus dans les rues de Chicago pendant qu'elle était au volant de sa voiture. Elle n'avait pas d'armes, mais sa conduite erratique, comme dit Donald Trump, a convaincu un agent qu'il fallait la tuer. Elle n'est finalement pas morte de ses blessures, mais Donald Trump qualifie tous ceux qui s'en sont indignés de marxistes subversifs. Il n'a fixé aucune limite lui-même à ce qui semble être une immunité totale des agents de l'ICE, Ludivine Gili.
On pourrait mentionner, je ne sais plus à quel égard il avait fait cette remarque, mais disant que la limite qu'il se fixait, c'était celle de sa propre moralité.
Oui, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, en parlant notamment du droit international.
Voilà. On peut envisager que c'est la même. L'administration Trump, aujourd'hui, parle d'impunité et d'immunité pour les agents fédéraux. Le vice-président J.D. Vance, juste après le meurtre de René Goode, alors au-delà du fait qu'il l'a qualifié d'extrémiste radical de gauche, a aussi expliqué que les agents fédéraux étaient dans leur bon droit et bénéficiaient de l'immunité, ce qui est faux. Ça a été rappelé par Cléa Fortuné. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'en fait, comme l'a dit Cléa, il est question de doute raisonnable, de craintes raisonnables, et toute la Constitution, tout le droit des États-Unis est rédigé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a la règle, et on peut y faire entorse en cas de... Et là, le problème, c'est que les autorités fédérales ne se comportent pas de manière raisonnable, tout en disant que les personnes déraisonnables sont les personnes qui... en l'occurrence, sont les victimes. Donc on a vraiment un renversement de la situation où l'État fait usage de la force de manière déraisonnable en accusant ses opposants de l'inverse.
Et y compris en pénétrant dans des résidences privée, non plus seulement devant les tribunaux d'immigration ou dans les tribunaux, dans les chantiers, les lieux d'agriculture, les magasins de bricolage où des travailleurs sans papier patientent le matin en espérant un travail à la journée. Ils entrent aussi maintenant dans les résidences qui ne leur est pas autorisée par les textes, mais on sait maintenant que certains présentent de faux mandats signés par l'agence elle-même, alors que c'est un juge qui est censé le faire. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de recours en justice aujourd'hui, Cléa Fortuné, et qui formule des recours en justice quand il y en a?
En effet, hein, ces mandats que vous mentionnez sont beaucoup utilisés par les agents de ICE. Ils ressemblent beaucoup à des mandats signés par des juges, ce qui serait nécessaire, hein, pour pouvoir rentrer chez quelqu'un. Les personnes qui ouvrent la porte, qui voient ces mandats signés de ICE, qui ont tel état de peur, d'anxiété, qu'en fait c'est impossible de faire la différence entre ces deux mandats. Et du coup, il y a beaucoup de recours en ce moment qui viennent de partout, que ce soit des résidents qui portent plainte contre leurs droits constitutionnels qui sont attaqués. On a aussi des maires, hein, qui portent plainte, notamment le maire Jacob Frey de Minneapolis, qui se retrouve au centre d'une crise politique nationale. Il a dénoncé, comme ça a été rappelé dans un des extraits que vous avez passé, que voilà, il y a eu un déferlement d'agents dans la ville. Il a porté plainte contre ce déferlement d'agents. Il a été soutenu par le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui a aussi porté plainte contre le gouvernement fédéral pour avoir enfreint, enfin, ou piétiné en tout cas les droits des États fédérés. Le déferlement des agents de ICE aurait empêché l'État du Minnesota de pouvoir assurer le bien-être de ses citoyens. Donc ça, c'est des plaintes qui ont été déposées. Le gouvernement fédéral a réagi, hein, assez vite, notamment contre Jacob Frey et puis Tim Walz. Et ils ont été d'ailleurs même mis en accusation il y a quelques jours pour obstruction à l'État fédéral. Donc en fait, les recours viennent vraiment de partout, que ce soit de la population, au maire, au gouverneur, et même de l'État fédéral lui-même.
Et de la justice, le 18 janvier dernier, une juge fédérale a limité les pouvoirs de l'ICE dans l'État du Minnesota. Alors il lui est désormais interdit de détenir des manifestants dans leur véhicule s'ils n'interfèrent pas avec les opérations, avec encore une fois toute la latitude d'interprétation qu'ont aujourd'hui les agents de l'ICE ou qu'ils décident de toute façon une fois qu'ils sont en situation. Est-ce qu'il y a à l'inverse, on parle beaucoup de ces villes démocrates et en particulier Minneapolis, qui sont aujourd'hui investies de l'ICE, qui surgissent comme ça de nulle part pour des opérations ultra-violentes. Est-ce qu'il y a à l'inverse, Ludivine Gili, des villes ou des États fédérés qui se montrent très coopérants et très zélés avec l'ICE?
Oui, tout à fait. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des opérations coup de poing, qui sont en partie organisées pour qu'on parle d'elles et pour qu'on montre la violence et la brutalité.
Alors que finalement, c'est assez contre-productif et d'en donner les réactions des gens, non?
Alors, c'est contre-productif vis-à-vis de l'opposition, mais pas nécessairement vis-à-vis de la base de Donald Trump, et ça, on pourra y revenir. Mais pour revenir à votre question sur la coopération, effectivement, les États républicains, deux, en particulier la Floride et le Texas, sont des États qui coopèrent. On parle parfois des États sanctuaires. Alors, des États, des villes, des comtés sanctuaires, qui sont principalement des États, villes, comtés démocrates, dans lesquels les autorités ont adopté des mesures qui indiquent qu'elles ne vont pas coopérer avec les forces de l'ordre.
Ce qui ne veut pas dire qu'elles les entravent.
Voilà. Elles ne vont pas entraver, elles ne vont pas faire obstruction, ce serait illégal. En revanche, elles ne vont pas coopérer. Inversement, certains États, et cela a été mentionné précédemment, ICE par exemple, a contracté des collaborations avec un certain nombre de juridictions locales dans toute une série d'États, la Floride et le Texas au premier rang d'entre eux, collaborent avec ICE, avec la patrouille des frontières, pour repérer, appréhender détenir des personnes suspectées d'être en situation irrégulière sur le territoire.
Mais dans des villes comme Minneapolis, cela va de soi, entre guillemets, puisque le maire de la ville et le gouverneur de l'État fédéré du Minnesota sont raccord, entre guillemets, et tous les deux ne cessent de hausser le ton pour dire que l'ICE doit partir. Qu'est-ce qui se passe dans des États comme la Floride quand une ville est gouvernée par un maire démocrate, et notamment Miami, puisque le 2 décembre a été élue la démocrate Eileen Higgins à près de 60% contre le candidat républicain après 28 ans du parti républicain au pouvoir. Comment, dans ces cas-là, se passe l'action de d'ICE à Miami, qui est une ville chère à Donald Trump par ailleurs?
Oui, c'est délicat dans ce genre de situation parce que justement, on a une différence entre la volonté des autorités locales, ultra-locales en fait, municipales, et la volonté du gouverneur de l'État. On peut avoir des frictions. Simplement, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas le même degré de violence dans des villes comme Miami par rapport à ce qu'on peut constater à Minneapolis ces jours-ci, mais à Chicago auparavant, lors de ces opérations coup de poing qui sont orchestrées pour générer de la violence, pour générer de la violence symbolique au-delà de la violence physique.
Et vous pensez qu'à Miami, il y a même on demande aux policiers de ne pas faire montre de trop de violence, justement pour ne pas prêter le flanc à des accusations qui diraient que même dans les États républicains...
Ça n'est pas nécessairement qu'on ne demande pas cela aux policiers, c'est simplement qu'il y a... Il n'y a pas cette masse policière qui est présente. Vous mentionniez vous-même en début d'émission, on a 5 fois plus d'agents fédéraux aujourd'hui à Minneapolis que de police locale. À Miami, ce n'est pas le cas.
Et on voit que les affortunés, par ailleurs, les maires, et en particulier celui de Minneapolis qu'on a entendu au début de cette émission, qu'on entend beaucoup aujourd'hui se prononcer avec des discours très forts, qui demandent aux agents d'ICE de partir, qui demandent solennellement à Donald Trump de faire cesser cette violence, mais qui demandent aussi aux manifestants de ne pas s'opposer trop fermement aux actions d'ICE. Qu'est-ce qu'il s'agit de ne pas provoquer, d'après ces élus ?
Bah, c'est de ne pas provoquer, enfin de ne pas répondre à la violence par la violence, en fait. Et c'est un petit peu tout ce qui est reproché au maire démocrate, au gouverneur démocrate. Ça a été le cas aussi à Los Angeles, hein, en juin 2025, lors des manifestations. La maire Karen Bass et le gouverneur Gavin Newsom avaient demandé aux manifestants de ne pas répondre par la violence aux agents de l'ICE. Et en fait, les démocrates sont un peu targués d'inaction vis-à-vis des politiques mises en place aujourd'hui par le gouvernement Trump.
D'autant que Donald Trump ne cesse d'invoquer l'Insurrection Act pour menacer les maires et les gouverneurs en disant on va intervenir si le chaos prend le dessus dans vos villes, on enverra l'armée ou la garde républicaine contre l'avis souvent des gouverneurs. Est-ce que d'ailleurs Cléa Fortuné, des dispositions particulières dans la Constitution des États-Unis permettent à un gouvernement en place de suspendre des élections en cas de ce qui serait considéré comme un chaos? Est-ce que Donald Trump a ce pouvoir-là s'il réussit à trouver des prétextes pour envoyer la garde nationale partout où il le souhaite?
Alors, il parle beaucoup de suspendre des élections dernièrement. Il y a les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre 2026. Il a dernièrement parlé du fait qu'il aimerait supprimer ces élections. Il a des pouvoirs, alors je dirais pas pour supprimer des élections, hein, mais il a le pouvoir en effet de déployer l'armée à l'intérieur du pays pour supprimer des insurrections, des troubles civils, des rébellions contre l'autorité fédérale. C'est l'Insurrection Act que vous venez de mentionner. C'est une loi qui date de 1807, donc très ancienne, et qui concrètement permet au président de déployer l'armée comme force de police dans les rues des villes états-uniennes. Et ça donnerait autorité aux militaires de mener des opérations d'arrestation, de procéder à des fouilles, à des saisies, à des interrogatoires, là où aujourd'hui ce sont seulement les agents de l'ICE qui sont autorisés à mener ces arrestations.
En tout cas, politiquement, tous les républicains, y compris dans le camp de Donald Trump, ne sont pas aussi enthousiastes que lui quand il s'agit de défendre les actions de cette police. Le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, a appelé ce week-end à une enquête conjointe locale et fédérale sur la mort d'Alex Preti, un événement extrêmement perturbant, a-t-il dit, qui met en jeu la crédibilité de l'ICE et du département de sécurité intérieure. C'est ce que dit aussi un trumpiste, pourtant assuré, le podcasteur, comme on dit, Joe Rogan.
Si un flic vous arrête, vous pouvez lui demander son nom et son matricule. Si un agent d'ICE vous interpelle, rien de tout ça. Ils sont masqués, ne vous disent rien du tout, ne rendent aucun compte. C'est un vrai problème dans nos rues. On ne veut pas de gars militarisés qui zonent, embarquent les gens de force, y compris des Américains dont le tort est de ne pas avoir leurs papiers d'identité. On veut vraiment cette Gestapo. Où sont vos papiers? On en est là?
Alors Joe Rogan qui crée des podcasts, qui n'a pas de fonction, qui n'est pas élu, est-ce qu'il y a d'autres que lui pour critiquer chez les Républicains l'ICE, Ludivine Gillier? La question est d'autant plus importante que en ce moment, on le disait tout à l'heure, les élus du Sénat discutent de la One Big Beautiful Bill qui doit donner des moyens supplémentaires à l'ICE mais qui n'a pas encore été votée.
En fait, ils discutent de la loi de finances actuellement, qui a été adoptée, enfin, une des parties, parce qu'elle est en plusieurs morceaux. Un des morceaux, celui qui finance le ministère de l'Intérieur, a été adopté par la Chambre. Et depuis le meurtre d'Alex Preti, les démocrates du Sénat ont annoncé leur intention de bloquer le financement du ministère de l'Intérieur pour cette raison-là. Du côté des Républicains, on entend quelques voix, mais elles sont extrêmement rare. Et depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on constate que ce sont assez souvent les mêmes qui s'expriment sur différents sujets, mais à tour de rôle. Rarement en même temps, donc rarement en nombre suffisant pour bloquer effectivement le vote de telle ou telle mesure. Sur le Groenland, c'était Tom Tillis, par exemple. On a entendu Susan Collins du Maine. Là, on entend le sénateur Cassidy de Louisiane. Qui ne se représentera pas, probablement parce qu'il avait été menacé de se faire opposer un candidat aux primaires républicaines par Donald Trump, Tom Tillis de même. Donc, du côté des Républicains, on constate que les élus s'opposent peu et de manière ponctuelle.
Et ils le font quand ils n'ont plus d'enjeux politiques à assumer dans leur carrière. Et que peuvent ceux qui le font, les Républicains qui le font et qui s'opposent à cette politique Léa Fortuné, face à tous ceux qui, dans leur camp, associent en revanche migrants à criminels? C'est un discours défendu très ouvertement aujourd'hui, Léa Fortuné, d'associer migrants à criminels.
Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui ne date pas de Trump. Hein. Dès les années 90, au moment où les premières barrières ont été érigées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les migrants ont déjà été la cible. Et puis ça s'est amplifié suite aux attentats de 2001, où les migrants ont été mis sur le même plan que les terroristes. Et cette rhétorique, en fait, s'est beaucoup amplifiée sous le premier mandat de Donald Trump, davantage encore ici, et ce qui lui permet, selon lui, de justifier en fait ces expulsions de masse pour protéger les citoyens états-uniens, selon la rhétorique du gouvernement fédéral actuel.
Et c'est littéralement écrit sur le site du Secretary of Homeland Security qui décrit les sans-papiers comme criminels, pédophiles, violeurs. On sait aujourd'hui que la communauté somalienne est particulièrement visée à Minneapolis par Donald Trump, qui a qualifié la députée somalienne Ilhan Omar de déchet et tous ses compatriotes d'origine de tas d'ordures. Cléa Fortuné, les agents d'ICE sont-ils tous des suprématistes blancs, en tout cas au service d'une politique qui se définit comme telle?
Alors, affirmer que tout le monde, parmi les agents de ICE, tout le monde est suprémaciste.
Il y a eu des enquêtes sociologiques, d'ailleurs, qui disent qu'il y a quand même des représentants de minorités raciales parmi ces agents.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de Mexicains, Américains parmi ces agents. Des enquêtes, des études ont été aussi menées sur les agents Mexicains, Américains, qui seraient d'ailleurs plus sévères lors des arrestations que des agents blancs. Mais cette idée de suprémacisme, en tout cas, c'est quelque chose qui a une histoire. Hein. On peut remonter aux années 1840 avec la Destinée manifeste et cette idée d'exceptionnalisme américain où les blancs seraient supérieurs aux non-blancs, avec cette idée de civiliser le monde. Et ce suprémacisme, il s'est traduit par la suite dans des mesures anti-migratoires, comme la loi de 1952, qui compte parmi les clauses les plus importantes sur les migrations, qui sont encore appliquées aujourd'hui, notamment une clause qui autorise les officiers de l'immigration à interroger toute personne qui serait suspectée d'être en situation irrégulière aux États-Unis. Donc on en revient à cette histoire de soupçon raisonnable qui a ouvert la voie en fait au profilage racial, donc le fait d'arrêter une personne sur la base de son apparence, la couleur de peau, son accent, la langue qui est parlée, qui a été mis en place en fait depuis des décennies à travers différentes administrations, déjà sous Obama, qui est d'ailleurs Obama qui a pour surnom l'expulseur en chef, puisque c'est sous son administration que le plus grand nombre de personnes en situation irrégulière ont été expulsées. Sous Obama, en Arizona, il y avait un shérif qui s'appelait shérif Joe Arpaio, qui se qualifiait comme le shérif le plus dur de l'Amérique, parce qu'il pratiquait le profilage racial pour arrêter des milliers de latinos en enfreignant les droits constitutionnels de milliers de latinos. Et aujourd'hui, ce profilage racial, il est encore pratiqué. La Cour suprême s'est prononcée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les arrestations Kavanaugh, du nom du juge de la Cour suprême qui avait été nommé par Trump lors de son premier mandat et qui autorise les arrestations sur base de soupçons raisonnables. Donc la couleur de peau peut être un facteur pour arrêter quelqu'un.
Ludivine Gilly, pour conclure cette première partie, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de bras armés de la politique de Donald Trump, de police politique, de milice? Qu'est-ce qui vous semble le plus adapté?
Je ne parlerai pas de police politique dans la mesure où, jusqu'à présent en tout cas, ICE ou la police des frontières se limitent à la question de l'immigration. Et on a des mesures qui sont extrêmement violentes, qui sont extrêmement brutales, avec les deux meurtres de Minneapolis. Mais on reste, pour le moment, circonscrit à la question de l'immigration. En revanche, l'intention derrière ces manifestations-là, la violence physique, la violence symbolique, l'intention, c'est de terroriser, de terrifier, d'intimider l'opposition. Et donc là, on est sur un message qui est beaucoup plus politique.
Et l'historienne Sylvie Laurent parle de script néofasciste qui se reproduira ailleurs à mesure que l'extrême droite gagne du terrain. Vous écoutez Culture Monde, c'est le premier épisode de notre série sur les violences policières utilisées aujourd'hui par des États comme armes politiques. Aujourd'hui, ICE et ses attaques contre les étrangers et contre l'État de droit, et que des dizaines de milliers de citoyens américains aujourd'hui se donnent pour mission de surveiller pour l'empêcher de tuer.
France Culture. Culture Monde, Julie Gacon.
Voilà quelques notes de trombone pour empêcher les agents de l'ICE de dormir à Minneapolis. Des orchestres de la résistance se sont mis en place devant les hôtels réservés par la police fédérale. Tout un réseau s'est mis en place dans les villes où intervient l'ICE avec plusieurs niveaux d'action. Bonjour Clément Petitjean.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie et maître de conférence en études américaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de la thèse sur les professionnels de la représentation populaire, les community organizers à Chicago. Mais vous suivez aussi bien évidemment ce qui se passe en ce moment dans d'autres villes comme Minneapolis, d'où nous sont parvenues d'ailleurs des images de cortèges immenses dans les rues vendredi. Est-ce que la journée d'action à laquelle avaient appelé des organisations syndicales a été très massivement suivi, mais surtout par qui?
Alors, donc cette journée d'action, de ce qu'on sait pour l'instant, elle était appelée en réalité, effectivement, par des organisations syndicales, par des organisations religieuses, par tout un tas d'associations. Et le mot d'ordre, c'était donc en anglais « no work, no school, no shopping », donc pas de travail, pas d'école et pas de consommation, qui a été décrit par certaines personnes comme un blackout économique ou comme une grève générale, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire américaine. Et donc on va voir dans les semaines et dans les mois qui viennent, selon la temporalité des interventions de ICE, si d'autres actions de ce type vont se reproduire.
On a vu certains occuper des supermarchés de l'enseigne Target, dont la direction autorise les rafles policières. La présidente du syndicat des enseignants du Minnesota a appelé à la grève alors qu'elle n'est pas connue, nous avez-vous dit, pour préparer cette émission, pour être des plus radicales. Est-ce que les mobilisations contre ICE aujourd'hui dépassent le monde associatif militant qui était déjà mobilisé au plus fort de Black Lives Matter, par exemple après la mort de George Floyd?
Oui, alors dans des villes comme Chicago ou comme Minneapolis, mais également comme Portland ou Los Angeles, en fait dans ces villes démocrates, il y a eu des interventions de ICE qui ont été, comme l'ont dit les autres intervenantes, très médiatisées. Il y a des mobilisations qui réactivent des réseaux militants, alors des réseaux militants qui vont être rattachés à des associations, à des syndicats, des réseaux militants un peu plus informels, un peu plus autonomes. Et il y a aussi des formes de participation qu'on peut dire un peu plus spontanées, en voyant par exemple que son voisin ou sa voisine risque d'être interpellé, que les enfants des amis de ses enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils ont peur d'être interpellés. Donc il y a des formes de réaction qui dépassent très largement les cadres militants existants.
Et c'est vrai que dans toutes les vidéos qui circulent, on voit très souvent à quel point les agents de ICE se font insulter par tout le monde, d'enseignants qui s'interposent pour protéger les enfants, des responsables religieux qui sortent sur le pas de l'église pour dire qu'il est impossible d'entrer dans l'église et que ces hommes d'église s'y opposeront jusqu'au bout. Alors l'idée souvent c'est de filmer les agents, ce qui a d'ailleurs coûté la vie à René Goude et Alex Preti. C'est aussi d'interpeller massivement et de faire nombre à chaque fois qu'il y a interpellation. En amont, Clément Petitjean, comment s'opposer et par qui le travail de surveillance, de patrouille dans les quartiers?
Alors, de ce qu'on sait, et de moi, les échanges que j'ai pu avoir avec des gens à Chicago, c'est que c'est un travail qui est effectué à la fois par des militants et militantes de longue date sur la question des droits des immigrés, mais aussi par des personnes qui, en fait, sont profondément choquées par ce qui se passe, par les images, par le fait d'avoir vu des agents de ICE intervenir. Et donc, c'est des personnes qui vont rejoindre essentiellement des groupes Signal, donc la messagerie cryptée Signal, et qui vont se coordonner en disant il y a des gens qui vont essayer d'identifier des voitures, puisque les voitures, comme vous le savez, elles ne sont pas... c'est des voitures banalisées. Donc, il y a tout un travail d'identification à faire, un travail d'alerte au moment où il y a des arrestations et des raids qui sont menés. Et puis, en amont et en aval, il y a aussi tout un travail de solidarité, par exemple de distribution alimentaire pour des centaines et des milliers de familles qui s'auto-confinent, en fait, qui ne sortent pas de chez elles par peur d'être interpellées. Donc, il y a ce travail-là qui est moins visible, mais qui est du travail absolument essentiel et qui est mené par... Depuis des églises, depuis les arrière-boutiques de petites échoppes, y compris depuis des arrière-boutiques de sex shops. Il y a plusieurs exemples à Minneapolis et à Chicago de ça. Donc il y a vraiment une forme de réaction citoyenne extrêmement large dans toutes ces villes-là.
La façon qu'ont des familles aujourd'hui de venir rendre service à d'autres qui restent aujourd'hui cloîtrées chez elles parce qu'elles n'osent plus sortir, ça réactive des formes de solidarité qu'on avait vues au moment du Covid. Pour les autres moyens d'action que vous nous avez décrits, Clément Petitjean, notamment l'usage de sifflets, je crois que un son court, ça veut dire qu'une voiture de l'ICE passe, un son long, c'est qu'ICE est en train d'intervenir, on interpelle comme ça tout le quartier et on ramène tous ceux qui se trouve là pour venir filmer à la fois l'action et peut-être tenter aussi de dissuader les agents d'intervenir. À Chicago, par exemple, que vous connaissez bien, les associations qui se mobilisent aujourd'hui, de quelle expérience se sont-elles nourries?
Elles se sont nourries en réalité du premier mandat Trump, puisqu'on l'a un peu oublié, mais pendant la campagne de 2016 et dès son élection, Trump avait annoncé et promis une vague d'expulsion historique qui en fait n'a pas eu lieu en termes de chiffres absolus. Pour autant, ça a mis en place chez donc des organisations qui se spécialisaient sur les questions de défense des droits des immigrés et des réfugiés, se sont mis en place des protocoles de formation juridique, de connaître ses droits pour pouvoir répondre aux agents de l'ICE, de mettre en place aussi des systèmes de des systèmes d'entraide. Par exemple, il y a des il y a une association comme la Coalition de l'Illinois sur les droits des immigrés et des réfugiés qui tient une sorte de numéro vert qui permet aux personnes interpellées d'appeler, mais aussi aux familles de prendre des nouvelles. Et en fait, ces réseaux-là, ils n'ont pas disparu. Ils étaient peu visibles pendant le premier mandat de Trump, mais ils ont continué leur travail, y compris pendant le Covid. Et du coup, là, tout ce savoir-faire, il est réactivé et il est diffusé bien au-delà des quartiers où il y a une forte proportion de d'immigrés et de réfugiés. Et ça se diffuse à Minneapolis, à Los Angeles, à la Nouvelle-Orléans ou à Philadelphie.
Et par exemple, à Chicago, l'association Protect Rogers Park, qui a été créée en 2017 au nord de la ville pour protéger les sans-papiers, comment est-ce qu'elle a étendu son action là, ces derniers mois, pour faire face à ce déferlement de violence par les agents d'ICE?
Donc là, en fait, c'est des associations qui, de ce que je sais, moi, sont essentiellement des associations bénévoles et qui s'appuient, en fait, sur ces groupes Signal. Donc, par exemple, le quartier de Rogers Park, qui a à peu près 50 000 habitants, et les reportages qui ont été réalisés sur les activités de Protect RP disent qu'il y a, dans l'un des groupes Signal, à peu près 2000 personnes qui participent et qui envoient des signalements et ensuite une partie d'entre elles pour faire un travail de vérification pour s'assurer que tel 4x4 avec des vitres teintées, eh bien un 4x4 de ICE, relever les plaques d'immatriculation et ensuite faire passer le mot pour être prêt en cas de déploiement.
Merci beaucoup Clément Petitjean pour tous ces détails issus de votre expérience de terrain, notamment à Chicago. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie et maître de conférence en études américaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Peut-être d'abord une petite réaction de Cléa Fortuné avant de vous faire conclure, Ludivine Gili. Cléa Fortuné, dans quelle mesure aujourd'hui ces actions qui semblent quand même de plus en plus massives et qui vont au-delà, nous disait Clément Petitjean, des cercles initiaux de militants, d'activistes, est-ce que vous sentez du côté politique une forme de réaction, et est-ce que ça peut conduire à modérer à un moment les choses, modérer à la fois les actions de l'ICE, les discours de Donald Trump, est-ce que ça peut finir par infuser et agir?
Ces actions qui essayent d'aller à l'encontre des mesures qui sont mises en place aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont importantes. Il y a davantage de personnes qui se mobilisent. Comme le rappelait Clément Petitjean, ce sont même des gens qui n'étaient pas avant, qui ne faisaient pas partie d'associations forcément, mais qui sont choqués par ce qui se passe et qui se mobilisent. Après, de là à contraindre le gouvernement, je ne suis pas sûre, puisque il y a cette volonté vraiment très importante de vouloir mener à bien ces expulsions de masse. Donald Trump reste un businessman, les chiffres pour lui sont importants, ça a été rappelé, les chiffres sont gonflés aussi sur les sites gouvernementaux, sur le nombre de personnes qui sont expulsées, et puis aussi il est soutenu quand même par une Cour suprême qui est à majorité conservatrice, donc il faut voir ce qui va se passer par la suite.
Donald Trump qui affirme que 605 000 personnes ont été expulsées du 20 janvier au 10 décembre dernier, mais vous nous avez toutes les deux bien mise en garde contre ces chiffres et leur véracité qui est très difficile à vérifier aujourd'hui. Ludivine Gili, Donald Trump inflexible, est-ce que d'autres élus pourraient changer les choses à l'approche des midterms, même si vous nous rappeliez tout à l'heure que côté républicain, à part ceux qui s'en vont et qui tirent leur révérence dans quelques mois, rares sont ceux qui ont manifesté une désapprobation.
Oui, et c'est probablement en partie dû au fait que la base républicaine reste très très fortement favorable à la politique anti-immigration de Donald Trump. Soutient également, par exemple, concernant René Good, le tir, en disant à une forte majorité que c'était un tir justifié. Donc d'un côté, Donald Trump n'a aucune raison de reculer dans la mesure où il conserve le soutien de sa base. Parallèlement à ça, dans la perspective des élections de mi-mandat à la fin de l'année, on a plusieurs questions qui se posent. Une question de niveau de mobilisation citoyenne du côté des démocrates et en partie des indépendants, Et d'autre part, étant donné la violence qu'on voit survenir dans les rues de la part du pouvoir, la question des circonstances dans lesquelles les élections de mi-mandat pourront se tenir.
Merci beaucoup Ludivine Gilly, merci Cléa Fortuné également d'avoir été avec nous. Je salue Fabienne Vallée qui était à la technique à la radio-télévision suisse à Genève et qui a dû essuyer quelques problèmes techniques qui ont été finalement indolores. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Pékin continue ses purges au sein de l'armée. Le président Xi Jinping se sépare même de l'un de ses proches, Catherine.
Zhang Yuqia était le général le plus gradé de Chine, un ami d'enfance aussi de Xi Jinping. Son confident, rappelle le New York Times, leur père avait combattu pour Mao. Zhang Yuqia était membre également du puissant Politburo, au cœur donc du pouvoir du Parti communiste chinois, ajoute le South China Morning Post. Sa disgrâce, sa chute témoigne d'une consolidation sans précédent du pouvoir entre les mains du président chinois, analyse le Washington Post. En clair, Xi Jinping veut s'assurer un pouvoir absolu. Même si officiellement Zhang Yuqia et Liu Shenli, chef d'état-major interarmé, sont emportés par une énième purge au nom de la lutte anti-corruption, les deux généraux sont accusés d'avoir gravement nui aux efforts visant à renforcer la loyauté politique au sein des armées, écrivent le Global Times et Jie Fang Junbao, le quotidien de l'armée populaire de libération. Zhang Yuqia, membre du bureau politique du comité central du PCC et vice-président de la commission militaire centrale, et Liu Shenli, chef d'état-major interarmé, sont soupçonnés de violations graves de la discipline et de la loi, rapporte CCTV, la télévision d'état chinoise. Le comité central du PCC a décidé d'ouvrir une enquête à leur encontre. Selon le Wall Street Journal, leur sort a été scellé lors d'une réunion au plus haut niveau samedi matin avec toute une série d'accusations contre le général Zhang Yuqia. Il aurait tenté de construire des réseaux d'influence autour de lui, quitte à saper l'unité du parti. Il aurait accepté des pots de vin en échange de promotions. Mais plus choquant encore, le général est accusé d'avoir livré des secrets nucléaires aux États-Unis, titre le Wall Street Journal. Il avait pourtant échappé aux précédentes purges visant les hauts gradés en Chine. Ces deux dernières années, au moins 2 douzaines de hauts responsables militaires et des dirigeants de l'industrie de la défense ont été démis de leurs fonctions ou ont disparu de la scène publique, précise le Washington Post, sans compter des sanctions contre près d'1 million de fonctionnaires l'an dernier en Chine. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul membre aux côtés du président Xi Jinping au sein de la commission militaire centrale. C'est comme si l'état-major interarmé aux États-Unis ne comptait qu'un seul général, explique le Financial Times. Et il faudra peut-être 5 à 10 ans, selon le New York Times, pour reconstituer des chaînes de commandement en Chine et former une nouvelle génération d'officiers dignes de confiance.
Et cela pose des questions sur les ambitions militaires de la Chine, notamment face à Taïwan.
L'île autonome que Pékin revendique comme son territoire. Les anciens hauts gradés ont toujours joué un rôle modérateur dans la prise de décisions militaires, davantage réticents donc à attaquer Taïwan, affirme le Washington Post. Mais Xi Jinping veut ses propres hommes, des jeunes qui, d'une certaine manière, lui seront plus redevables, rapporte le quotidien américain, alors que le président chinois veut moderniser son armée pour être en capacité d'envahir Taïwan d'ici 2027. Fin décembre, rappelle le Washington Post, Pékin avait organisé des manœuvres militaires d'une ampleur sans précédent, encerclant Taïwan, simulant un blocus quasi total de l'île avec le déploiement de frégates, d'avions de chasse, de bombardiers, de drones. En décapitant aujourd'hui la structure de commandement, Pékin pourrait perdre en efficacité au combat, estime le Taipei Times, ce qui réduirait le risque immédiat d'une invasion de Taïwan, ajoute le Wall Street Journal. Ces purges pourraient aussi donner à Donald Trump un certain avantage, note le Washington Post, lors de futures négociations avec Pékin.
Et au Mozambique, Catherine, ce sont les pires inondations depuis une génération.
Près de 650 000 Mozambicains ont été touchés par ces inondations depuis le 7 janvier. Au moins 12 morts des habitants se sont retrouvés piégés par la rapide montée des eaux, décrit Carta de Mozambique. En quelques heures, de l'eau jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la taille, dans la ville de Maracuene, dans le sud du pays. La rivière Inkomati est sortie de son lit, emportant tout sur son passage. Maisons, vaches, chèvres, cochons, déplore un agriculteur dans un reportage de la BBC. Ces rizières sont aussi sous l'eau. Des Mozambicains hésitent à quitter leur propriété. Certains préfèrent s'accrocher à la cime des arbres. La situation risque de s'aggraver, préviennent Opaïs et la BBC, à cause des fortes pluies qui s'abattent sur l'Afrique du Sud voisine. Elle estime, elle, à plus de 25 millions d'euros les dégâts sur ses ponts, ses routes et les maisons. Les finances de l'ensemble des parcs nationaux sud-africains sont en péril. Au Mozambique, plus de 50 000 personnes sont aujourd'hui hébergées dans une cinquantaine de centres d'accueil provisoires et l'ONU lance un appel de fonds car les inondations s'ajoutent aux déplacements massifs de population à cause du conflit dans le nord du Mozambique. Les réserves de nourriture, de vivres sont quasiment épuisées, prévient l'ONU.
Merci Catherine Dutu. Un mot avant de laisser la place au Midi de Culture pour une rapide annonce. Une fois n'est pas coutume, à Culture Monde, on a souvent adressé une pensée à Christophe Glaise, journaliste sportif incarcéré en Algérie depuis le 29 juin 2025 et condamné à 7 ans de prison. Reporters sans frontières organise un concert de soutien au Bataclan à Paris ce jeudi soir. Les entrées sont à prendre via le site de RSF ou de la salle de concert et les fonds serviront intégralement à la campagne de libération de Christophe Glaise. Dans un instant, les Midis de Culture.